Salut les sportifs, c'est Armano, j'espère que tout se passe bien pour vous. En tout cas, moi je suis très 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 heureux de vous recevoir pour un nouvel épisode du podcast de Nakane. Épisode, eh bien, si on suit notre planning de diffusion, qui est en face à face, qui est en amoureux avec mon cher co-animateur et co-producteur de ce podcast, j'ai nommé le grand Greg, aka Trinakane.
Oui, c'est ça. Bonsoir Armano, bonsoir les auditeurs. Donc c'est notre 26e épisode de la saison 2, c'est juste ?
Ouais, je crois bien, hein. Je crois que tu as bien compté. Enfin, de toute façon, c'est toi la caution technique et les chiffres, hein, Greg.
Mais il me semble que c'est cet épisode 26.
Non, mais je te confirme, c'est l'épisode 26. Puisque pour tout dévoiler à nos auditeurs, ce midi, on a enregistré l'épisode 27 déjà en anticipation.
Ouais, exactement. Parce que bah, pour tout leur dire de notre planification de podcast et comment ça se passe dans les décors, dans les coulisses, eh ben, en fait, avec Armano, on a un bout de fichier Excel. Hein. On va pas beaucoup plus loin pour l'instant dans la planification. Où, en début de saison, on liste un petit peu tous les sujets qu'on aimerait aborder au cours de la saison. Alors bien évidemment que ça évolue au fur et à mesure de la saison sportive, de l'année. Et puis cette année, des conditions un petit peu particulières qu'on a vécues. Donc c'est vrai qu'il y a eu pas mal de changements dans cette liste éditoriale. Mais par contre, là, c'est vrai qu'on reprend un petit peu la liste des thématiques qu'on aimerait aborder pour cette fin de deuxième saison. Hein, déjà parce qu'on arrive tranquillement vers le mois d'octobre. Donc il va rester à peu près 2 mois de diffusion. Et puis on va mettre fin à cette saison 2, mais bon, ça c'est de la musique d'avenir. Mais je me disais juste en disant l'épisode 26, c'est quand même pas mal, 26 épisodes déjà maintenant pour une saison de podcast.
Ouais, c'est pas mal. Et puis surtout que, si, je sais pas si t'as bien compté, mais sur la saison 1, on a fait pile poil 20 épisodes. Donc ce qui fait que depuis un an et demi, puisqu'on a commencé en avril 2019, eh bien on a déjà fait 46 épisodes. Alors bien sûr, il y a quelques hors-séries et il y aura d'autres hors-séries. Mais je trouve que c'est pas mal. Hein. On a un petit peu choyé les oreilles de nos auditeurs.
Moi, je trouve qu'on est assez productif. Mais bon, on laissera juger du côté qualitatif à nos auditeurs et puis du choix des sujets, savoir si ça leur convient. Et puis on rappelle là qu'ils peuvent venir nous mettre un petit commentaire sur les plateformes de podcasting. On est pas mal connecté à Apple Podcast parce que c'est là qu'on a le plus de retours. Donc un petit commentaire sur cette plateforme-là et puis nous on note et puis on intègre bien évidemment ces retours justement pour le fichier Excel qui concernera la saison 3.
C'est ça, exactement. Et puis on a déjà des auditeurs qui nous ont parlé de certains sujets, notamment un auditeur qui nous a proposé en saison 1 et qui m'a rappelé là en saison 2 de ne pas oublier de parler de l'alimentation de l'hydratation, pardon, et plus particulièrement l'hydratation sur les courses d'endurance et notamment le trail. Donc c'est bien noté. Tu parlais tout à l'heure de l'aspect qualitatif, alors je tenais à faire mon mea culpa. D'ailleurs, tu m'as grondé la semaine dernière quand on a mis en ligne à la dernière minute l'épisode avec Fred Bousseau. J'ai fait un petit micmac dans le montage et c'est vrai que la qualité de ton son n'était pas bon. Donc si vous avez laissé tomber l'écoute de l'épisode parce que la qualité du son ne vous satisfaisait pas, eh bien rechargez votre appli de podcast parce que Greg a refait le montage et il a remis un épisode avec un son digne de ce nom. Donc mea culpa, en tout cas j'espère que sur les prochains épisodes on fera les choses bien comme il faut dans les règles de l'art.
Ouais, c'est vrai qu'on essaye de faire, mais je t'ai pas grondé Armano, je t'ai juste fait souligner que dans la multitude de fichiers .mp3 .wave qu'on se partage les uns les autres parce qu'on enregistre à distance pas Skype mais on s'enregistre local puis on s'échange les fichiers et puis c'est vrai qu'après on a une multitude de fichiers dans un répertoire qu'il faut reconstituer, savoir quel fichier correspond à quoi, à quelle piste. Et puis c'est vrai que des fois dans le montage, vu qu'on fait ça de manière amateur et puis que des fois ça se passe un petit peu tard dans les fins de soirée, c'est difficile de savoir quel fichier correspond à quelle piste et puis lequel il faut utiliser. Donc voilà.
Mais tu sais, moi je suis sensible, hein, c'est pour ça, la moindre petite remarque, ça me fait un peu fondre en larmes.
Je vais devoir être très très attentif aux termes que j'utilise quand je me plains de la qualité audio de ma piste le lendemain chez Armano.
Bon, trêve de plaisanterie, je pense que là on a bien fait rire nos auditeurs avec notre petite bagarre de couple. Ce soir, je crois qu'on a un sujet un petit peu plus léger que les sujets habituels. On va pas trop parler technique. On va parler chiffres, mais pas forcément technique. Est-ce que tu veux nous dire un petit peu de quel sujet on va parler, Greg, ce soir ?
Moi, je vais commencer par te poser une question, Armano, parce que je sais que tu as déjà couru des marathons. tu es un homme qui court des marathons et qui en courra probablement encore. Est-ce que tu t'es jamais posé la question, en particulier à ce moment où tu arrives à l'indicateur du kilomètre 40, mais pourquoi diable il y a encore 2,195 km à courir quand je passe ce kilomètre 40?
Alors, ce qui est pas mal, c'est que dans l'ère dans laquelle nous vivons, il suffit souvent de demander à une certaine Alexa ou à un certain Google ou à d'autres enceintes connectées, ou voire même juste tapoter avec ses gros doigts boudinés sur son smartphone pour avoir la réponse. Donc oui, je me suis déjà posé la question et je sais pourquoi maintenant. D'ailleurs, tu me l'as rappelé en off et puis tu m'as même donné quelques infos que j'ignorais totalement. Mais donc, du coup, tout ça pour introduire que le sujet de ce soir, ça va être à propos de chiffres et de distances, de courses et d'anecdotes relatives à ces courses, n'est-ce pas?
Ouais, c'est ça. Donc, moi, je me suis un petit peu intéressé aux disciplines forcément que je pratique, ou en tout cas qui m'intéressent, et puis de me poser la question, mais pourquoi est-ce qu'on a des marathons qui mesurent 42,195 km et pas 40 km ou 42 km même, ou vraiment, s'il fallait cette distance-là, pourquoi pas 42,2 quoi, mais... Voilà. Et puis c'était pareil pour différentes autres épreuves qu'on va passer en revue, parce que j'ai, comme toi, hein, probablement, j'ai passé en revue Internet, probablement aussi quelques livres un peu plus conventionnels et physiquement j'ai touché le papier, notamment le livre d'un invité de notre saison 1 qui s'appelle Pierre Morat, qui a écrit le livre sur la course à pied Free to Run, donc même nom que son film, que j'ai également visionné il y a quelques temps et puis qui m'ont donné des idées pour la thématique de ces distances. Voilà, quelques sources de données que j'ai utilisées pour les notes que j'ai sous les yeux pour cet épisode.
Quelques sources d'inspiration. Bien, bien, bien. Bah, du coup, sans autre forme de procès, comme disent certains podcasteurs, et notamment l'ami Guillaume Vendée, ce que je te propose, c'est de rentrer directement dans le vif du sujet. Tu nous as parlé du marathon et de sa fameuse distance de 42,195 ou 42,195 pour les plus francophones de nos auditeurs. Enfin, pour les plus français, parce que les francophones en dehors de France, en général, utilise justement cette numération, mais bon, bref, tout ceci n'est que de la sémantique. Donc les 42 et quelque chose, est-ce que les et quelque chose, ce serait pas, je sais pas, pour placer les tables de ravitaillement?
Alors non, pas tout à fait, mais moi ce qui m'a surpris surtout quand je me suis intéressé à cette question, c'est que cette distance, je pensais qu'elle était vraiment liée à l'histoire du marathon. Donc dans l'histoire, je pensais que ça datait vraiment de plusieurs siècles, hein, que cette distance était ancrée, mais pas du tout.
Et c'est souvent ce qu'on entend en fait.
Ouais, mais cette distance vraiment fixée de 42,195 ou 195 mètres, eh bien, elle n'a été véritablement et finalement entérinée qu'en 1924 à Paris, lors des Jeux Olympiques. Avant, un marathon, eh bien, ça pouvait se courir sur des distances qui oscillaient entre 38 et 43 km, 44 km, en fonction du parcours, en fonction de l'envie des organisateurs et en fonction de la configuration des lieux, probablement.
Et en fonction du GPS qu'ils utilisaient, parce que... ou plutôt à l'époque de l'appareil, qui est de l'espèce de roue dont ils se servaient pour mesurer les distances.
Ouais, alors ça, effectivement, je me demande à partir de quand est-ce qu'on mesure très très précisément la ligne idéale d'un marathon. On sait que maintenant, sur les grands major marathons, hein, on a la ligne idéale qu'il faut courir pour vraiment courir cette véritable distance et pas faire plus de distance. Je sais pas à partir de quand c'est là, par contre. Mais pour revenir à l'histoire du marathon, donc on court sur la distance approximative du marathon depuis moins 490 ou moins 490, donc avant Jésus-Christ. Et puis l'histoire raconte que c'est Philippides, donc le messager grec, qui aurait rapporté la victoire contre les Perses à Athènes depuis la ville de Marathon, et puis que ce parcours-là, eh ben, il l'aurait couru pour annoncer le plus vite possible la nouvelle, et que le parcours mesurait à peu près 40 km.
Donc, on n'était pas du tout encore dans les 42 et quelque chose. On était autour d'une quarantaine de kilomètres.
Oui, parce que pendant près de 2000 ans, figure-toi, même un peu plus, eh bien, on court le marathon environ 40 km. Mais voilà, ça, même les premiers Jeux Olympiques modernes, on court sur des distances qui ne sont pas forcément tout le temps les mêmes. Et donc, on n'a pas vraiment de record hein, sur les parcours, puisque une fois, il peut faire 2 km de moins, une fois, 1 km et demi de plus. Donc, difficile d'établir un record lorsque tu as 2 km de plus à courir.
Alors, autant sur une piste, je peux comprendre que l'on ait des distances prédéfinies, que ce soit le 400, le 800, le 1500, le 3000 steeple ou le 10 000, et que ça, même si on remonte à il y a très très longtemps, voire même aux premiers Jeux Olympiques modernes, on avait des distances fixes et on pouvait effectivement comparer les différents records. Pour le marathon, est-ce que tu sais pourquoi est-ce que en dehors d'avoir une distance fixe, les distances bougeaient? Alors, est-ce que c'est parce que c'est de la course hors stade et que du coup on faisait un petit peu avec les moyens du bord, ou est-ce que c'était une volonté des organisateurs d'augmenter le spectacle? Est-ce que tu tiens, si on parle de chiffres et d'anecdotes et d'histoires de la course à pied, est-ce que tu sais s'il y avait des marathons qui se couraient systématiquement en ligne droite ou en boucle?
Ouais. Alors non, moi j'ai pas vraiment d'informations sur les parcours exacts et pourquoi ils mesuraient cette distance. Simplement, je pense que vu que c'est une distance hors stade, mais on faisait un petit peu avec avec les rues, avec les routes qu'on avait à disposition aux alentours de la ville haute des Jeux Olympiques. Et puis, je pense que c'est posé le problème au moment où le sport a commencé à devenir voilà, un lieu où on bat des records, où on s'améliore, etc. Et je pense que autant les athlètes que les fédérations que le CIO a voulu une distance qui est toujours la même pour le marathon, pour pouvoir dire, ben voilà, nos athlètes, comme sur 100 mètres, comme sur 1500 mètres, eh bien, ils peuvent venir battre le record olympique lors d'une édition des Jeux. Et donc, du coup, là, on a décidé de maintenir cette distance qui est restée depuis 1924 de 42,195 km. Mais d'où est-ce qu'elle est arrivée? L'histoire est très liée à la famille royale britannique, puisque cette distance-là a été pour la première fois
courue. Parce qu'on courait le marathon à gauche, c'est ça, non?
Alors peut-être, mais en tout cas, elle a été courue pour la première fois en 1908 lors des Jeux de Londres. Et puis c'est quelques petits caprices de la famille royale britannique qui ont fait que le parcours faisait exactement ces 26 miles et quelques poussières, parce que l'organisateur a dû se plier à deux demandes de la famille royale. La première, c'est les enfants de la famille qui demandaient à voir le départ depuis la pelouse du château de Windsor. Et donc le parcours a été légèrement adapté pour qu'effectivement ils aient une belle vue sur le départ. Et puis Édouard VII, donc le roi, qui a exigé que la course termine juste au pied de la loge royale où il était présent pour l'arrivée de ce marathon. Et donc voilà, on a exigé que le départ se passe ici, on a exigé que l'arrivée se passe ici, et puis on avait un parcours. Et donc du coup, en faisant partir de là, aller jusque là sur le parcours établi, ça a donné ces 42,195 km.
Donc grosso merdo, on peut estimer encore à l'heure actuelle que entre les jardins de Windsor et les fenêtres du Palais Royal, il y a 42,195 km où ce marathon-là faisait quelques détours.
Alors j'imagine, parce que quand tu regardes la carte de Londres, tu te rends compte qu'il n'y a pas 42 km entre le château de Windsor et puis probablement le stade dans lequel il y avait la fameuse tribune royale où elle devait se terminer. Donc du coup, ça faisait probablement déjà un parcours un petit peu en zigzag à travers la ville, mais ce parcours-là avait déjà dû être fixé à l'avance. Et puis pour répondre aux exigences de la famille royale, ben voilà, ça s'est fixé là. Mais par contre, après, il y a encore deux éditions des Jeux Olympiques qui ont été courues avec une distance qui oscillait encore un tout petit peu autour de cette distance officielle, où les Jeux de Stockholm en 1912 et puis Anvers en 1920, où la distance n'était pas tout à fait exacte par rapport à ces 42,195. C'est que lors des Jeux de Paris en 1924 que finalement, à partir de là, les marathons se sont toujours courus sur cette distance de 42,195. Et moi, je vais perpétuer cette tradition, je l'espère très fort, d'ici quelques semaines au marathon de Lausanne.
Bon, en plus, ce sera à domicile, donc ça devrait bien se passer pour toi.
Oui, nous, on commence à plus pouvoir voyager dans beaucoup de pays là en ce moment, donc heureusement qu'elle est à domicile, cette course.
Ouais, je peux même pas dire que je vais venir courir avec toi, ne serait-ce que sur le semi, parce que les Luxembourgeois sont persona non grata en Suisse, donc ouais. Ce serait dommage.
Oui, et puis malheureusement, le semi a été annulé, et puis l'organisation n'a maintenu que la distance marathon, parce que le nombre d'inscrits était limité, et donc du coup, c'est la seule course qui va peut-être encore pouvoir avoir lieu.
Bon, donc là, on parle de marathon. Alors, pour les Français chauvins et qui aiment le sport, vous aurez quand même noté, et je ne le savais pas, que les derniers Jeux Olympiques qui se sont passés à Paris, c'était en 1924. C'est acté depuis maintenant 4 ou 5 ans que les prochains auront lieu à Paris en 2024. Donc, c'est un beau clin d'œil quand même de savoir qu'il y a un siècle qui sépare ces deux éditions des Jeux Olympiques à Paris. Voilà, c'était mon petit clin d'œil pour mes amis français dont je fais partie. On a parlé du marathon. Oui. Je crois qu'on voulait aussi parler d'autres distances, notamment en course à pied.
Alors, on a intégré le marathon déjà à un triple effort qu'on connaît assez bien tous les deux, parce qu'il y a un format de triathlon qui se termine par un marathon.
Est-ce que ouais, ça alors surtout toi, tu le connais pour l'avoir pratiqué. Moi, je le connais pour avoir tenté d'y aller et puis avoir déclaré forfait à une semaine avant mon objectif. Mais je crois que tu veux nous parler des triathlons dits distance Ironman.
Oui. Est-ce que tu sais d'où ça vient ?
De quoi ? Le nom Iron Man ? Bah, c'est un Marvel ou un comics, non ?
Ouais. Alors la confusion est souvent faite hein, quand on parle d'Iron Man et puis que les gens voient le type avec le costume rouge et gris métallisé. Mais non, c'est pas de là que ça vient.
Non, écoute, je pense que tout triathlète qui se respecte déjà rêve un jour d'aller fouler le sol hawaïen. Et puis, oui, l'Ironman, en tout cas, la distance Ironman et l'Ironman originel, bref, a eu lieu à Hawaï avec, je crois que c'était 4 ou 5 copains qui faisaient partie des forces spéciales américaines et qui s'étaient lancé le défi de nager entre deux îles et puis de faire le tour d'une île en vélo et enfin de courir sur cette même île dans un autre sens. Mais comme par hasard, ça donnait des distances que l'on connaît actuellement.
Ouais, alors t'es pas très très loin en fait, Hermano, ton histoire se rapproche de l'histoire que j'ai pu lire de la création de l'Ironman. C'est effectivement des militaires stationnés à Hawaï qui s'affrontaient lors de discussions de fin de journée, peut-être
très légèrement
un petit peu alcoolisés, exactement. Et puis, il y avait parmi ces marins des sportifs qui participaient aux différentes épreuves autour de Waikiki, donc une des îles de l'archipel de Hawaï.
Et oui, parce que pour recentrer le débat, il faut préciser à nos auditeurs que maintenant, l'Ironman d'Hawaï, les championnats du monde qui ont lieu le deuxième week-end d'octobre, si je ne m'abuse, ont lieu sur l'île de Kona, mais ce n'est pas l'emplacement original où a été créé l'Ironman.
Ouais, alors ça, c'est la grande déception hein, de toutes les personnes qui vont participer à l'Ironman de Hawaï, qui s'appelle maintenant Ironman Hawaï ou Ironman Kona. Eh bien, c'est que malheureusement, ce n'est pas l'Ironman originel, parce que le premier se déroulait depuis Waikiki. Et c'est dans un bar de Waikiki que se sont bagarrés verbalement ces différents militaires qui pratiquaient trois épreuves sportives différentes qui avaient lieu à Honolulu. Et le premier, c'était la traversée de la baie, en fait. Le Waikiki Open Water Swim, qui traversait la baie et qui fait 3,8 km de natation. Le deuxième, c'était la course cycliste qui s'appelle Around Oahu, et qui mesurait 185 km. Et puis la troisième, c'était le marathon d'Honolulu. Voilà, le marathon, maintenant on en a parlé, il faisait 42,195 km.
Oui, parce que le premier Ironman, c'était en 76, je crois, 76. Et donc, on avait déjà les distances officielles du marathon qui étaient de 42,195.
Exact. Donc, il est décidé de créer... en fait, c'était en 78, John Collins, donc, qui est le militaire en question, qui crée une version adaptée de ces épreuves pour pouvoir les enchaîner les unes après les autres, parce qu'ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord sur laquelle des trois était la plus difficile. Donc, ils ont décidé de les enchaîner les trois, et puis celui qui terminerait premier, eh bien, serait désigné comme étant le sportif le plus héroïque de l'équipe. Et donc, du coup, il fallait enchaîner ces 3,8 km de natation. Cette course cycliste qui a été ramenée de 185 à 180,2 km. Et puis ensuite, le marathon d'Honolulu, dont le parcours a été légèrement modifié pour partir depuis la plage. Et c'est Gordon Haller qui remporte cette toute première édition de l'Ironman, qui s'est déroulée sur l'île de Waikiki en 11h46.
Loin des temps des plus rapides maintenant, qui gagnent en moins de 8 heures.
Moins de 8 heures, ouais. Alors effectivement, maintenant, il faut bien imaginer que ces sportifs-là étaient entraînés que dans une des trois disciplines, hein, puisqu'ils se bagarraient pour savoir laquelle était la plus difficile. Et puis, on l'a dit, c'est un petit peu le côté moins chouette pour le mythe, hein, c'est que pour des raisons logistiques, puisque le succès a été assez rapide par rapport à cette course, malgré les distances qui sont longues, Collins a reçu énormément d'inscriptions, déjà pour l'année suivante, donc 79 ou 79. Et puis, dès 1981, il doit déplacer l'Ironman sur l'île de Kona pour avoir plus de place, pour pouvoir mieux gérer la partie logistique. Et donc, depuis l'année 81, c'est le parcours qu'on connaît sur l'île de Kona.
Alors moi, vu qu'on parle de chiffres, et c'est quelque chose dont on a parlé avec la communauté des hamster runners, comme définit Bertrand Soulier, eh bien, il y a un de nos auditeurs qui nous a demandé, est-ce que vous savez ce que c'est que 26,1 miles ? Donc on l'a dit tout à l'heure, hein, 26,1 miles, c'est la distance du marathon. Et du coup, moi, je me suis amusé à leur lancer une autre devinette qui était, est-ce que vous savez ce que c'est que 140,6 ? Parce qu'on parle toujours... dans le langage triathlétique, un peu d'endurance et voire même de longue distance, du Half Ironman ou du 70.3 ou 70.3, mais on parle jamais d'un Ironman comme étant un 140.6. Et donc, je pense que c'était bon à rappeler que 140.6, c'est la distance de... C'est cette fameuse distance combinée de l'Ironman qui est finalement 140,6 miles et qui correspond à 26 miles de course à pied, 2 miles de natation et puis vous faites la différence pour le vélo.
Oui, c'est exactement ça. Donc oui, en fait, on voit plus aux États-Unis, hein, les Américains portent plus facilement des t-shirts ou alors ont des autocollants sur leur voiture avec la notion 140,6. Nous, on parle vraiment d'Ironman. Parfois, on entend la distance de 226 km, hein, qui est la distance cumulée en kilomètres pour l'Ironman. C'est vrai que le 140,6, on l'entend un petit peu moins du côté européen. Mais aux États-Unis, oui, si tu parles de 140,6 à quelqu'un qui fait du triathlon, il va te répondre que c'est la distance de l'Ironman.
Alors, je sais que pendant un moment, il y avait une série, je crois que c'était Ironman qui avait lancé ça, les 100 ou les 200, tu sais, où tu enchaînais plusieurs centaines de kilomètres, mais ce n'était pas les distances Ironman, c'était des distances où la part belle était beaucoup plus faite au vélo qu'à la natation ou à la course à pied. Je ne me souviens plus de ces séries.
Il y avait les Tristar Series qui étaient 1 km de natation, 100 km de vélo et 10 km de course à pied, ça faisait des triathlons de 111 km.
Ouais, ça devait être ça. Et je sais plus si c'était Ironman qui avait lancé ça, mais voilà, on a joué un petit peu aussi avec les chiffres pendant un moment.
Ouais, c'était Tristar, je crois, le label qui organisait ça. Malheureusement, le label a disparu et ses courses n'ont pas été reprises.
Où Faris Al-Sultan, d'ailleurs, excellait, je me souviens, pendant un certain temps. Ok, donc on a parlé marathon, dans le cadre de l'Ironman. Est-ce qu'il y avait d'autres distances mythiques comme ça ou d'autres anecdotes dont tu voudrais nous abreuver ?
Alors moi j'ai une autre distance, alors c'est pas forcément la distance d'une épreuve cette fois-ci, mais j'ai fait du cyclisme sur piste, et sur piste en fait c'est assez facile parce que les pistes mesurent en général une distance avec laquelle on arrive avec un certain nombre de tours à faire un kilomètre, c'est-à-dire que les pistes font en général 200, 250, voire 333 mètres, et donc du coup c'est facile, tu fais 5, 4 ou 3 tours et puis t'as fait un kilomètre, donc là c'est relativement facile. Puis je me suis posé la question, mais pourquoi est-ce que nos pistes d'athlétisme font 400 mètres. parce que c'est pas facile de faire un kilomètre sur une piste. Il faut faire 2 tours et demi, et puis on a des lignes droites sur cette piste de 400 mètres qui font pas tout à fait 100 mètres, donc il faut rajouter un petit bout pour faire des 100 mètres. Donc pourquoi est-ce que on a des pistes qui font 400 mètres ?
Écoute, je n'en sais strictement rien, mais tout ce que je sais, c'est qu'il y a une des pistes sur laquelle je m'entraîne à Luxembourg qui dépend du campus international, qui est un campus anglophone. Et pour le coup, il y a une piste de 333 mètres. Alors quand j'ai des 1000 mètres à faire, j'aime bien y aller parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, c'est beaucoup plus simple pour se calibrer. Par contre, quand tu dois faire des 200, des 400 ou des 800, là, c'est un peu plus chiant. Alors je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on a des pistes qui font 400 mètres.
Eh bien parce que il y a une raison historique à ça. Alors la première, je pense qu'il y a aussi une raison pratique, c'est que si on fait une piste de 200 mètres, les virages sont trop serrés, on est sans arrêt en train de tourner et on se casse la figure et on n'a pas des performances qui sont optimales. Et puis si on a une distance qui est beaucoup plus grande, donc on pourrait imaginer hein, une piste de 500 mètres, je pense que ça poserait pas trop de problèmes. Mais si on a une piste par exemple de 1000 mètres, eh bien ça devient très difficile, par exemple, de la mettre dans un stade qui est multi-usage. Avec un terrain de foot au milieu, etc. Donc ça devient beaucoup trop grand. Mais en fait, la distance de 400 mètres, elle serait issue en fait des jeux de Grèce antique où les coureurs à pied ils s'affrontaient sur 2 tours de leur stade. Et puis ce stade-là faisait 200 mètres. Donc du coup, on a gardé cette distance de 400 mètres parce que je pense que tourner dans leur stade, comme je le disais, hein, ça fait une course qui tourne beaucoup et donc du coup sur laquelle on n'arrive pas à développer une performance maximale.
Voilà la force centrifuge.
Voilà, exactement. Et puis, il y a une petite anecdote aussi, c'est qu'une piste de 400 mètres eh bien, ne fait pas 400 mètres.
Ah.
Et non.
Eh ben là, écoute, tu m'embouches un coin.
Eh oui.
Mais combien fait-elle alors ? 401, 402, 398 ?
Elle fait 398,12 mètres à la corde du couloir 1. Parce qu'on mesure la distance de 400 mètres à 30 cm à l'intérieur de ce couloir 1, parce qu'on part du principe qu'un athlète ne va pas courir à la corde, parce qu'on le sait, hein, s'il touche la ligne ou le petit muret qui est à l'intérieur du couloir 1, il est disqualifié. Et donc du coup, naturellement, il faut de la marge. Et donc cette marge est calculée de 30 cm s'il y a un muret rigide à l'intérieur de la piste, 20 cm s'il y a juste une ligne qui est dessinée. Et donc du coup, voilà, la corde du stade fait un tout petit peu moins de 400 mètres. Ça, c'était juste pour la petite anecdote.
Alors, pour ceux qui ne l'auraient peut-être pas forcément compris, hein, c'est aussi une des raisons, parce que tu parles de mesurer à 30 cm de la corde de la piste, c'est aussi une des raisons pour laquelle quand on voit des compétitions d'athlétisme et des athlètes qui partent tous, enfin sauf pour le 60 ou le 100 mètres, mais qui partent tous à des positions différentes sur la piste, eh bien c'est tout simplement parce que quand on est donc à la corde, c'est-à-dire au plus près du cercle, au plus près du stade de foot, on va dire, enfin du terrain de foot, eh bien la distance fait quasiment 400 mètres, donc elle fait 400 mètres à 30 cm ou à 20 suivant la mesure, mais par contre quand on est dans le dernier couloir le plus éloigné du terrain de foot, eh bien là la distance n'est pas la même, donc pour une question d'équité, eh bien on augmente ou on diminue le plot de départ et après charge aux athlètes de se rapprocher de la corde.
Alors oui, pour les épreuves longues, hein, par exemple le 10 000, hein, on va voir les athlètes qui s'alignent derrière une ligne qui fait un arc de cercle pour que plus ils sont proches du centre, plus ils doivent courir de distance supplémentaire pour compenser cette distance-là. Et puis si on regarde le 200 mètres, par exemple, qui se court donc sur un demi-tour, eh bien on va voir les starting blocks qui sont alignés avec quelques mètres d'écart chacun les uns des autres, effectivement, pour compenser cette distance supplémentaire que les couloirs extérieurs vont parcourir en plus dans les virages. Ouais.
Voilà, donc ça c'était pour l'anecdote sur les distances relativement à la piste. Je crois que tu as une autre anecdote sur la piste.
Oui, et ça en fait, pareil, hein, je me posais la question déjà quand je faisais du cyclisme sur piste et puis quand je vais m'entraîner au stade à Lausanne pour faire mes séries sur la piste.
Pourquoi ne serait-ce pas le stade de Coubertin ?
Oui, c'est le stade de Coubertin, ouais.
Qui me rappelle quelque chose, avec une jolie piste bleue.
C'est ça, les auditeurs comprendront dans 2 semaines.
C'est ça.
Donc, effectivement, je vais au stade de Coubertin et je me rends compte que, comme quand je fais du cyclisme sur piste et quand je regarde des meetings d'athlétisme à la télévision, que je regarde des courses de speedway ou encore d'IndyCar aussi à la télévision, eh bien, je me rends compte d'une chose, on tourne toujours dans le même sens sur ces pistes.
Oui, bah c'est vrai qu'à la limite, on est libre de tourner dans le sens qu'on veut, mais en tout cas, sur les compétitions officielles, le marquage est toujours dans le même sens, ce qui fait que ça nous amène toujours à courir dans le même sens. Est-ce que ce ne serait pas lié au sens de rotation de la Terre ?
Non, parce que dans les deux hémisphères, donc que ce soit l'hémisphère nord, l'hémisphère sud, on court dans cette même direction.
D'accord. Alors, dis-nous pourquoi est-ce qu'on court toujours dans le même sens ?
Alors, j'ai été très surpris quand j'ai lu ça, mais en 1913, il y a plusieurs scientifiques qui se sont lancés dans une étude internationale. Et lors de cette étude, ils ont trouvé que l'être humain, en fait, avait une faculté neurologique à courir plus vite dans le sens inverse des aiguilles d'une montre plutôt que dans le sens des aiguilles d'une montre. Et donc, ils ont fait plusieurs tests par rapport à ça. Et en fait, voilà, c'est neurologique. Et on est plus apte à courir dans ce sens-là. En tout cas, la majorité des gens sont plus aptes à le faire. Et puis, en faisant des tests sur beaucoup d'individus, ils se sont rendus compte que... avec des athlètes qui étaient entraînés à courir dans les deux sens, et bien sur 1000 mètres, on constatait un écart qui pouvait aller jusqu'à 2 secondes.
Ah ouais, quand même.
C'est pas négligeable.
C'est pas négligeable, surtout à haut niveau. Donc, depuis que cette étude est sortie en 1913, on tourne tous, en tout cas pendant les compétitions, dans le même sens de la piste.
C'est ça. Et même à l'entraînement, hein, quand tu viens, par exemple, au stade de Coubertin à Lausanne, s'il y a beaucoup d'athlètes qui s'entraînent, je te recommande de courir dans le même sens qu'eux.
Oui, non mais...
Parce que tu vas vite te faire ramener à l'ordre si tu cours dans le mauvais sens.
Très clairement, mais ce que je voulais dire, c'est qu'en compétition, c'est normé. Et de toute façon, on ne verra jamais un départ en compétition dans le sens inverse, enfin, dans l'autre sens de la piste. En revanche, quand tu t'entraînes et que tu es seul ou peu nombreux sur la piste, tu peux te permettre de t'amuser à tourner dans l'autre sens. Peut-être aussi pour éviter ce fameux syndrome du marathonien où bah, comme on court toujours dans le même sens, ou même les gens qui font toujours le même parcours de course à pied finissent par avoir certaines blessures d'un côté et pas de l'autre, eh bien on conseille souvent de changer de parcours, mais aussi de changer de sens quand on s'amuse à faire des boucles ou des tours sur la piste.
Alors, effectivement, en course à pied, je pense que dans la pratique d'un coureur amateur qui fait de temps en temps quelques séries sur piste, mais qui s'entraîne sinon sur route et chemin, je pense que ça aura peu d'impact. Je pense que pour un athlète qui s'entraîne plusieurs heures par jour sur la piste, je pense qu'effectivement, ça peut valoir la peine aussi de faire un équilibrage, entre guillemets, hein, de l'entraînement. Par contre, juste pour la petite histoire, le vélo de piste, ben forcément, hein, pour pas qu'il y ait d'accident dramatique, on tourne tout le temps et toujours dans le même sens sur la piste de cyclisme. Par contre, une fois lors d'une initiation, eh bien, on nous a dit « maintenant, vous tournez vos vélos et on va tourner dans l'autre sens ». Eh ben, je t'assure, Hermano, qu'il y a aussi un conditionnement psychologique et habitude. Et en fait, tu sais quasiment pas rouler dans l'autre sens.
Ah bah oui, j'imagine. J'imagine, ouais. C'est la beauté du corps humain. Et notamment, enfin, on en parlait avec Bertrand dans l'épisode de compte-rendu de notre swimrun de dimanche dernier. C'est comme travailler les transitions en triathlon, quoi. Le triathlète amateur qui se dit que bon, bah... Ouais, il y a une transition, c'est pas grave, on va la gérer, ne la prépare pas. En revanche, un triathlète d'un niveau un peu plus élevé, voire même les triathlètes professionnels, travaillent ces transitions pour être conditionnés, pour savoir exactement ce qu'il y a à faire quand tu sors de l'eau, ou ce qu'il y a à faire quand tu poses ton vélo, ou ce que tu vas avoir à faire quand tu vas passer de la zone de transition de vélo à la zone de transition de course à pied. Et on sent bien ce conditionnement déjà là en triathlon au moment des transitions. Alors oui, je te laisse, j'imagine très bien ce conditionnement quand tu fais du vélo de piste. Et qu'on te demande de courir dans l'autre sens.
Ouais. Et là, c'est encore pire que sur la piste en course à pied. Hein. En course à pied, déjà, ça fait bizarre. Mais bon, t'arrives à courir, je veux dire. Mais ouais. Sur le vélo, avec les virages qui sont très inclinés, hein, et puis la force centrifuge qui te colle à la piste, et puis voilà, cette habitude de tourner les jambes dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pendant plusieurs saisons, ben le jour où on te fait tourner dans l'autre sens, c'est vraiment presque désagréable.
Mais alors attends, il me semble que dans les... Non, il n'y a pas de même, non, je dis des bêtises. Dans les poursuites, ils se croisent pas, ils tournent tous dans le même sens. Donc c'est...
Ah, il y a vraiment intérêt.
non, ils partent à deux endroits différents de la piste,
oui,
mais
c'est ça.
Ils tournent tous dans le même sens.
Ouais. Ils partent exactement sur les deux lignes droites opposées.
Ouais.
Et puis on les voit passer leurs lignes respectives pour pas qu'ils bénéficient de l'aspiration l'un de l'autre, mais effectivement, ils tournent dans le même sens.
Ils ont plutôt intérêt à tourner dans le même sens. Ok, donc là on a fait le tour des chiffres et des anecdotes sur la piste, enfin sur les pistes. Qu'est-ce que tu nous as préparé d'autre comme jolie anecdote?
Bah écoute, pour l'instant je crois que ça fait déjà pas mal. J'ai regardé un petit peu l'histoire du triathlon distance olympique. On sait que le triathlon est devenu une discipline olympique en 2000 lors des Jeux Olympiques de Sydney, et puis je me suis posé la question de savoir pourquoi, puisque le triathlon original, hein, le premier, c'était un Ironman, et pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait des divisions de cette distance Ironman. Il y a des histoires de fédération, parce que lorsque Collins a créé le label Ironman, la marque Ironman, eh bien la Fédération Internationale de Triathlon, elle, s'est créée en parallèle, et puis du coup ils se sont jamais vraiment entendus ni sur les distances ni sur les règlements, et donc du coup c'est la Fédération Internationale de Triathlon qui a été mandatée par le CIO pour organiser le triathlon olympique. Et en fait j'ai regardé un petit peu pourquoi on avait choisi cette distance de 1,5 km de natation, de 40 km de vélo et puis de 10 km de course à pied, et pas quelque chose qui se rapproche plus de la distance originelle de l'Ironman. Et en fait c'est pas hyper intéressant, c'est pas aussi, aussi drôle qu'une discussion dans un bar pour savoir qui est le plus fort, mais c'est tout simplement de faire une épreuve qui permet de par sa distance, hein, déjà de vraiment faire une différence entre les athlètes, mais qui reste d'un format acceptable pour les médias, les spectateurs, et puis la logistique et l'installation technique de Jeux Olympiques. Parce qu'on imagine bien que lors de Jeux Olympiques, d'organiser une distance Ironman, déjà c'est compliqué. Soit il faut faire un multiple fois une boucle courte et c'est pas vraiment passionnant pour les athlètes, ou alors il faut boucler 180 km de route pour faire un parcours vélo et c'est compliqué. Et donc du coup on a choisi une épreuve qui soit sympa à regarder à la télévision et qui dure pas toute une journée, et puis qui permette quand même aux athlètes de s'exprimer. Donc voilà.
Et d'ailleurs, vu qu'on parle de triathlon olympique, de distance olympique, je ne sais pas si nos auditeurs l'ont déjà noté, mais c'est aussi souvent cette distance-là qui est support de Coupe du Monde ou de Championnat du Monde ou même des courses de Grand Prix, comme on appelle en France, donc qui est finalement un peu le championnat national. Il s'avère que ce genre de course se passe souvent, pas en même temps, mais sur les mêmes week-ends que le même type de course, mais pour les amateurs, où évidemment les amateurs ne concourent pas en même temps que les élites, hein, c'est quand même très élitiste le triathlon. Par contre, ce n'est pas toujours le même parcours, et notamment pour cette raison de satisfaire les médias et le public, là où sur le triathlon distance olympique, mais réservé aux amateurs, on va avoir une vraie boucle de 40 km en vélo, sur la partie réservée soit au Grand Prix, soit à des courses des manches de championnat du monde, on va avoir 40 km de vélo soit, mais plutôt en 4 boucles de 10 km.
Ouais, alors j'ai participé en tant que bénévole au championnat du monde de triathlon qui ont eu lieu il y a une année et demie à Lausanne, et qui était vraiment le cadre des championnats du monde, une manche de championnat du monde ITU. Et effectivement, moi j'étais juste bénévole au ravitaillement, donc je tendais les bouteilles d'eau aux athlètes, et notamment aux athlètes pros, hein. Donc il y avait les frères Brownlee de Grande-Bretagne, il y avait sur la course femme, il y avait Nicolas Spirig qui est championne et vice-championne olympique, enfin voilà, il y avait vraiment des grands noms du triathlon. Et en fait, le cahier des charges pour donner une bouteille à un athlète, il fait déjà 3 pages, je pense. Donc, l'organisateur technique, et on pourra poser la question à un de nos futurs invités qui sera très bientôt dans le podcast, on pourra lui poser la question, qu'est-ce que ça représente le cahier des charges total d'une manche de championnat du monde ITU pour l'organisateur d'un triathlon. Mais c'est gigantesque. Le parcours doit faire tant, la sécurité doit être telle et telle, la boucle doit avoir un dénivelé de temps, mais tant la zone de transition doit faire tant de mètres de large, tant de mètres de long, enfin, mais c'est vraiment, mais
ouais,
c'est un annuaire téléphonique au niveau de l'épaisseur avec des directives techniques. Donc effectivement, le parcours est souvent différent pour les courses élites que pour les courses amateurs, tout simplement parce que les élites, il y aura un peloton de 30 à 40 élites qui vont participer à la course, et puis il y aura peut-être 1200 amateurs. Donc on imagine déjà bien que c'est pas tout à fait les mêmes besoins. Et puis au niveau des médias, de mettre des caméras de télévision, des infrastructures sur un parcours de cyclisme qui mesure 20 km, c'est un petit peu compliqué. Donc c'est pour ça que souvent ça tourne sur des boucles de 5, 6, 7 km pour les professionnels et les élites. Et voilà, des caractéristiques techniques spécifiques pour ce genre d'épreuve, il y en a des centaines, voire des milliers.
Ouais, tu vois, je te l'ai déjà dit, hein. C'est toi la caution technique de ce podcast, Greg.
Mais juste pour la petite anecdote, pour finir cet épisode, donner une bouteille d'eau à un athlète élite, c'est super compliqué parce que y a les règles antidopage qui rentrent en ligne de compte. C'est-à-dire que tu dois ouvrir la capsule de la bouteille d'eau parce que tu dois la tendre à l'athlète ouverte. Mais par contre, l'athlète, au moment où il approche, il doit voir que c'est toi qui ouvres la bouteille, qu'elle n'était pas ouverte avant. Tout simplement parce qu'il veut être sûr, au moment où il boit la bouteille, que lui, il n'y aura pas quelque chose qui a été mis dedans la bouteille qui pourrait lui faire passer un test positif. Donc les athlètes sont apparemment sensibles à ça et effectivement ils regardent et ils vérifient et ils ne prendront la bouteille dans la main du bénévole que s'ils ont vu le bénévole tourner la main juste avant de la lui distribuer pour être sûr que la bouteille est clean. Et c'est qu'un des exemples. Donc ça veut dire que si tout d'un coup tu décapsules une bouteille et que tu la tends et que les deux athlètes qui t'ont vu la décapsuler ne la prennent pas, soit parce qu'ils en ont déjà une, soit parce qu'ils arrivent au bout de la course, et bien la bouteille, soit tu la bois toi parce qu'il fait chaud au moment où t'es bénévole, soit tu peux plus la distribuer en tout cas à un autre athlète élite parce qu'elle est potentiellement, enfin voilà, elle est plus réglementaire. Et voilà, juste être bénévole à ce niveau-là, ça m'a appris des trucs que j'ignorais totalement sur les règles antidopage.
Écoute, je pense qu'on pourra faire un épisode entier sur le ravitaillement des athlètes professionnels.
Ah, j'imagine, ouais.
Déjà, en 45 minutes, une heure, tu pourras nous lire les trois pages du cahier des charges.
ouais, on va faire ça. Mais on posera quand même juste la question à notre invité qu'on aura prochainement dans le podcast parce que je suis sûr qu'il a des anecdotes très intéressantes à dire sur les cahiers des charges de l'ITU pour les courses internationales.
Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bah, écoute, Greg, je trouve qu'on a fait encore un bel épisode, qu'on a balancé plein d'anecdotes qui n'étaient même pas forcément les nôtres, mais en tout cas les anecdotes historiques sur les distances de nos courses favorites. Ce qu'on peut éventuellement proposer à nos auditeurs, c'est que déjà, s'ils en ont d'autres, qu'ils n'hésitent pas à nous contacter, ça nous fera plaisir d'en parler, d'en échanger, de les relayer, peut-être même de faire des jolis posts sur Instagram avec les anecdotes que nous racontons nos auditrices ou nos auditeurs. Et puis, comme tu l'as rappelé en début de ce podcast, le meilleur moyen aussi de faire connaître le podcast de Nakan et de nous faire très plaisir, c'est d'aller sur Apple Podcast, de nous laisser une note évidemment 5 étoiles ou peut-être un peu moins si vous voulez qu'on s'améliore sur certains points. Et puis nous laisser un commentaire, ça nous permet de nous faire connaître et puis surtout de faire découvrir le podcast à ceux qui ne le connaîtraient pas.
Exact. Voilà, t'as tout dit.
J'ai tout dit. J'avais pris l'habitude de citer une des revues justement qui nous a été laissée, mais vu qu'on enregistre ces épisodes avec un petit peu d'avance, ce sera plus si evergreen et donc je passerai mon tour. Mais pour nos auditeurs qui vont faire un tour sur podcast.nakan.ch, ils auront remarqué que chaque deux semaines, quand on publie un épisode, on met aussi les derniers commentaires. Ça permet de mettre en avant aussi nos auditeurs qui nous laissent des gentils petits mots doux.
Oui, exactement. Toi, quand tu fais les notes des épisodes, tu mets ce genre de choses. Moi, tu peux me gronder hein, aussi. Tu parles
non, mais il fallait pas le dire, je repasse derrière toi, en fait.
Mais tu peux me gronder. Moi, j'oublie assez souvent de faire cette partie-là de la note des épisodes. Mais
vu qu'on en est sur ces petites anecdotes techniques, je dirais que je repasse de temps en temps derrière toi pour mettre ces commentaires et puis aussi pour changer le lien de l'épisode. Comme ça, nos auditeurs peuvent retrouver facilement l'épisode en allant sur podcast.nakan.ch. Là, on vous a dit par exemple que c'était l'épisode 26 de la deuxième saison. Il y en a déjà eu 20 dans la première. Donc, c'est l'épisode numéro 46 au total. Donc, vous faites podcast.nakan.ch/46 et vous tombez sur les notes de cet épisode.
Eh bien, écoute, c'est parfait comme ça.
Voilà. Greg, merci beaucoup pour toutes
merci
ces informations,
toi,
pour cette superbe soirée. Puis je te donne rendez-vous dans 15 jours.
Bah oui, dans 15 jours, hein, t'en as parlé, on a déjà enregistré l'épisode qu'on diffusera dans 15 jours. On avait un invité qui nous a parlé de sa carrière de triathlète pro. On a appris plein de trucs et puis on l'a enregistré au stade de Coubertin.
Voilà, dans des conditions plutôt agréables et exceptionnelles, en tout cas pour toi. Moi, j'étais coincé dans mon petit bureau entre deux lingettes pour nettoyer mon siège une fois que j'aurais fini l'utilisation. Mais vous étiez à la fraîche avec les petits yo-yo qui chantaient.
Exact. Alors, tout ça, c'est à découvrir dans 2 semaines. Et puis, d'ici là, je te souhaite...
Une bonne semaine et de bons entraînements, tiens.
Exactement.
Sur une piste de 333 mètres.
Éventuellement, une bonne récupération de tes swimruns que tu as été réalisé il n'y a pas longtemps. Et puis, à dans 2 semaines.
À dans 2 semaines. Ciao, ciao.
Ciao.